cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 1er février 95.
Petite question. Peut-on dire que notre adoration n'est pas vraie ou vécue en vérité si on tombe continuellement dans certaines fautes, donc de jalousie ou de non-maîtrise à l'égard de notre corps par rapport aux instincts du concupiscible, le gros concupiscible? Fonction. On ne peut pas, disons ici, puisque nous sommes dans l'éthique religieuse, on ne peut pas juger de la qualité de notre adoration en fonction des résultats. Vous comprenez qu'il n'y a pas une causalité de nécessité entre les deux. On est dans l'ordre moral. Première constatation. L'adoration transforme notre personnalité. Ça, c'est sûr. Mais l'adoration n'est pas source immédiate de nos vertus morales. Elle transforme leur exercice. Et forme des vertus. Ceci, c'est une grande affirmation depuis saint Augustin, reprise par saint Thomas. La charité est forme des vertus. C'est très difficile à bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la charité agit sur l'exercice. L'exercice n'est pas le même, mais elle ne modifie pas immédiatement la spécification des vertus. Eh bien, la vertu de religion acquise par l'adoration. L'exercice de nos vertus morales. Alors, c'est ce point de vue-là, forme. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que nous allons voir, parce que, de fait, elle nous donne une nouvelle finalité. Dieu, le Créateur, une nouvelle orientation, une nouvelle intention de vie. Une intention de vie nouvelle, le Créateur. Ici, c'est Dieu Père. Par la charité, nous vivons en Fils bien-aimé du Père. Morale, tout l'exercice de nos vertus morales. Et la vertu de religion joue un rôle analogue. Oui. C'est un parallèle qu'on ne doit pas faire en philosophie, puisque vous comprenez bien qu'en philosophie, je mets entre si nous pouvons faire allusion, parce qu'on est tous chrétiens, alors je peux faire allusion à ça. Notre vie est une vie chrétienne. Et nous faisons de la philosophie. Alors nous pouvons comprendre cette espèce d'analogie qui est très intéressante du reste. Parce que ici, j'ai une expérience de ça. J'ai l'expérience de mon adoration. J'ai l'expérience que l'adoration modifie. Modifie les formes. Donc elle modifie tout l'exercice de vertu morale. Mais ne détermine pas directement. Donc, il y a quand je tombe, je suis gourmand. J'ai pris la résolution le matin en priant à aujourd'hui. Une autre fois. Donc j'ai une meilleure conscience, ce qui me permettra de lutter davantage. Donc vous voyez, donc ne faites pas, ce serait faux. Ne faites pas, puisque j'ai encore des fautes du côté du concupiscible. Donc, je n'adore pas bien. Si j'adorais bien, ce serait supprimé. Ah non. J'adore, et donc je vais lutter davantage pour acquérir la vertu de tempérance. La vertu de tempérance s'acquiert. Il faut de la volonté pour ça. Il faut lutter pour acquérir. C'est vrai de la vertu de tempérance, c'est vrai de la vertu de force, c'est vrai de la vertu de justice, et c'est vrai de la vertu de prudence. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et ça, c'est très très important de comprendre ça. Et on peut toujours se poser la question, qu'est-ce que l'adoration apporte à mes vertus, à mes activités morales? Vertu cardinale. Donc nous avions posé la question, qu'apporte l'adoration? Comment l'adoration transforme l'exercice de l'amitié? Il y a un véritable assainissement, puisque l'amitié sans l'adoration risque toujours de devenir tyrannique. avec des choses nouvelles, il les prendra. Il y a un sens d'accaparement effrayant, aucun sens de la justice. C'est la même chose par rapport à la vertu de force. Un rien, il se met en colère. Alors, vivre avec quelqu'un qui du matin jusqu'au soir est en colère, c'est pas commode. Et donc, au nom de l'amitié, j'essaie d'acquérir la prudence, la force, la justice, la tempérance, pour que l'amitié puisse être vécue et s'approfondir. Parce que ce sont de terribles obstacles à rencontrer l'autre. À la place de rencontrer la personne amie, je rencontre une personne qui est en colère. Je ne peux pas aimer la colère. Je ne peux pas aimer l'injustice. Je ne peux pas aimer le manque de justice, le manque de respect. Je ne peux pas aimer cette gourmandise. Mais l'être à plat ventre qui rampe pour chercher ce qui lui est agréable. Je ne peux pas aimer ça. Donc, c'est un obstacle terrible à redécouvrir la personne de l'autre, de l'ami. Ça, je comprends très bien. Eh bien, l'acquisition des vertus cardinales présupposées acquises, la vertu de religion, enfin, non pas la vertu de religion, c'est-à-dire l'adoration, source de la vertu de religion. L'adoration ne va pas par elle-même me rendre vertueux. Non. Elle présuppose les vertus cardinales. Je prends un ordre philosophique. Alors, point de vue pédagogique, ça c'est autre chose. On pourra en dire un petit mot. Ici, je suis à essayer de regarder ce que l'adoration, l'exercice de l'adoration, des actes d'adoration, modifie au point de vue des vertus cardinales, bien que ça transforme l'exercice des vertus cardinales en donnant aux vertus cardinales une nouvelle finalité. Ce n'est plus seulement pour l'amitié, mais c'est aussi par respect. Au-delà de l'amitié, mon ami, j'ai un droit, le droit de l'amitié. Donc si je vois que de fait, il tombe toujours en colère, il est toujours injuste, qu'il est imprudent, j'essaierai de le corriger. Parce que c'est mon ami. Mais s'il n'est pas mon ami, est-ce qu'au nom de la vertu de religion, est-ce qu'au nom de l'adoration, je dois le corriger? Ça, c'est important, parce que ça modifie mon contact avec les autres. montrer qu'il manque de prudence. Parce qu'il est un être créé par Dieu. Qu'il a son intelligence pratique qui doit être au service de son adoration. Qu'il a l'intelligence pratique qui doit être au service des relations qu'il doit avoir avec les autres. Je peux, mais prudemment, je ne dois pas le faire tout le temps. Je dois essayer de comprendre que, au fond, je n'ai aucun droit sur lui. Mais, comme nous avons le même père, nous pouvons avoir des relations non seulement amicales, mais d'homme à homme, ce qu'on appelle la philanthropie. Je dois aimer tout homme, puisque tout homme est créé par Dieu, que tout homme a une âme spirituelle. Mais je sais que je ne peux pas mettre à vouloir corriger tous les hommes et toutes les femmes. Je ne peux pas. Vous voyez, je dois respecter. Je ne respecte pas le fils. Je respecte l'homme créé par Dieu qui a son autonomie. Et à ce moment-là, au point de vue de la prudence, je dois savoir si ma correction va l'aider ou pas. C'est le grand critère. Je ne dois pas, au nom de l'adoration, corriger tous ceux qui font des bêtises, qui manquent de prudence, qui manquent de force, qui manquent de tempérance, qui manque de justice. Mais je dois me poser la question, alors ça relève de la prudence, et d'une prudence éclairée par la vertu, par l'adoration. Me poser la question, est-ce que ça va être efficace pour lui? Est-ce que ça va être bon pour lui? Si je sais que ça va augmenter son irascibilité, si je sais que ça va augmenter sa fragilité, je ne le fais pas. Et au contraire, je l'aide. Vous voyez, là encore, l'adoration ne me donne pas des droits à corriger le prochain. Mais l'adoration me donne une lumière à l'égard de ses manques, à l'égard de ce qu'il devrait être et qui n'est pas. En raison de tout un contexte, en raison de la connaissance que j'ai de lui, je peux me poser la question, est-ce que je dois le corriger ou pas le corriger? Parce que je n'ai aucun droit. C'est pas parce que nous avons même Père, le Créateur, que j'ai des droits sur lui. Parce que les liens qui m'unissent à Dieu comme Créateur ne me donnent pas des droits sur quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai côtoyé, que j'ai trouvé sur ma route, mais je ne le connais pas vraiment. Mais je m'aperçois tout de suite de ses grosses bêtises. Il est une imprudence folle. Il n'a aucun sens de la justice. Et ainsi de suite. L'adoration me relie à Dieu Créateur et me donne le respect vis-à-vis de l'autonomie de chacun dans sa relation vis-à-vis de Dieu. Il me semble que c'est cela qui est premier dans cette vie d'homme qui a découvert Dieu. Qu'il adore. sur tous ceux qui sont proches de moi. Mais Dieu me donne une lucidité beaucoup plus grande sur eux, sur leur manque de prudence, sur leur manque de tempérance. Dois-je intervenir ou pas intervenir? C'est là. Si mon intervention va l'aider, en d'autres termes, sera efficace. Si mon intervention va au contraire l'accabler, je n'interviens pas. Parce que je dois l'aider. Je dois l'aider et garder contact de confiance philanthropique à son égard. Philanthropie, c'est ça. Au-delà de ces manques de justice, au-delà de ces manques de tempérance. Vous voyez, c'est la question du respect à l'égard de l'autre. Je ne suis pas son maître, sauf s'il m'a choisi comme maître. Je ne suis pas son maître. Même si je suis plus âgé que lui, ça ne me donne pas des droits sur lui. Je le respecte. Ça va très loin, le respect à partir de l'adoration. Très très loin. Le respect à l'égard de tous les hommes. Mais si je vois que... Mais c'est la question très très importante au point de vue. Faisons attention, nous ne vivons pas à ce niveau-là. Et nous voyons des gens qui vivent à ce niveau-là. Et donc nous devons essayer de comprendre ce qui est normal pour eux d'agir et ce qui n'est pas normal d'agir. Ça, c'est l'éthique religieuse. Quand vous voyez sur votre route un grand gaillard qui lutte contre un plus petit que lui, dois-je intervenir? Ne dois-je pas intervenir? Est-ce de la lâcheté de ne pas intervenir? Est-ce de l'audace? Et ce n'est pas prudent d'intervenir. C'est pas si commode que ça, hein, quand conscience. Et c'est intéressant parce que ça touche, vous voyez, cette question de la morale religieuse, ou de la morale purement humaine, ou de la morale chrétienne. Mais je ne traite pas de la morale chrétienne maintenant. Je traite de la morale religieuse qui assume la morale proprement humaine. Ai-je un droit d'intervenir? Ou est-ce qu'au contraire, je dois passer comme si je ne voyais rien? Pas commode à régler ça. C'est une question de justice. Est-ce qu'en justice, j'ai le droit de voir un garçon plus costaud taper un pauvre type plus maigrichon que lui, moins fort que lui? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dois-je être le juge? Sanguinité. uniquement. Et il fait du mal. Il intervient et il tue l'Égyptien. C'est peut-être une correction un peu trop violente. Mais il n'y avait peut-être pas d'autre moyen d'arrêter la colère de l'Égyptien sur l'Hébreu. Ça n'est pas dit dans le texte. Mais ça semble être dit. On ne le corrige pas. Dieu ne le corrige pas parce qu'il était trop violent. voisin. Alors dois-je intervenir? Si je sais que mon intervention sera efficace, j'interviens. Mais si j'ai peur que mon intervention augmente la colère, et qu'alors à ce moment-là, je dois aller jusqu'où? C'est-à-dire, hein, si j'en ai la force et le pouvoir de le mettre en dehors du compte, du contexte, par la mort. Délicat.